Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Caroline Châtelet et Marie Sorbier pour parler ensemble des innocents, moi et l'inconnu au bord de la route départementale, texte de Peter Handke, mise en scène par Alain Françon, Room with a View, mise en scène du collectif La Horn sur une musique de Rhône. Il y aura un coup de cœur de Caroline Châtelet pour Ersatz de Julien Mélano et puis le journal de la dispute ouvert par Lucille Como à la page judiciaire pour questionner la forme procès au théâtre. Et nous ouvrons cette dispute avec les innocents, moi et l'inconnu au bord de la route départementale, nouvelle pièce de théâtre de Peter Handke, sa première depuis son prix Nobel de littérature. Elle est cette fois encore mise en scène par Alain Françon, qui avait déjà créé la précédente pièce du dramaturge autrichien, toujours La Tempête, c'était en 2015 à l'Odéon. Cette fois-ci, c'est donc au Théâtre de la Colline que la pièce éditée chez Gallimard a été créée. Notez qu'elle se donnera également début avril à la MC de Grenoble. Mais de quoi ça parle, Marie Sorbier, pour commencer ?
Eh bien, c'est l'histoire d'un homme, dénommé moi, dans le texte, et de ses trois déclinaisons, c'est-à-dire qu'il est à la fois et successivement un moi épique, un moi dramatique, et le narrateur de cette histoire. Donc ce personnage, comme très souvent dans les œuvres de Handke, est un homme qui se caractérise d'abord par son besoin de solitude et sa crainte de tout autre individu à part lui-même. Ici, il est maître et servant d'un virage, d'une route départementale à l'abandon, où rien ne semble s'être jamais passé, qui n'a absolument rien de remarquable, et qui est même plus en état d'être utilisée. C'est une route abandonnée. Quand soudain, dans tout ce paysage, dans ce rien contemplatif, arrive un cœur dénommé par Handke les innocents, donc il s'agit de 8 personnes, et ce cœur-là, qui sont innocents de tout, c'est-à-dire ils ne sont coupables de rien, mais ils vont perturber de façon très violente, par moments, ce misanthrope sur le bord de la route.
Il reste l'inconnu, mais ça vous le gardez pour tout à l'heure.
Exactement.
Ok, on écoute un extrait de cette pièce de Peter Handke, traduite par l'auteur lui-même pour la version française.
Il y a longtemps, tu m'as raconté un des événements qui t'ont marqué le plus. Un dimanche matin, tu passais en voiture, oui, toi, en voiture, sur une route semblable à la nôtre, ici, devant un homme qui marchait. Un homme en costume noir et chemise blanche. Et cet homme marchait. Son pantalon a bougé, volté. Et quand tu es revenu toujours en voiture, le dimanche, à la tombée de la nuit, l'homme continuait à marcher au bord de la route, les fonds de son pantalon toujours voltant et flottant. Et tu m'as dit que cet homme était devenu ton idéal. Mais tu n'es pas devenu cet homme, voisin. Tu n'es pas lui. Tu ne seras jamais lui. Cet homme, jadis en marchant seul sous le ciel, n'était en même temps pas du tout seul. Il était en harmonie. En harmonie avec qui ou quoi ? En harmonie avec. Et ça lui a suffi. Mais toi, tu marches absolument seul sous le ciel. Et jamais tu vas arriver à une harmonie. Ni sur ta route, ni ailleurs. Tout disparaît, a déjà disparu. Et que ça disparaisse encore plus pour que nous autres puissions enfin commencer à nouveau et le nouveau. Toutes ces demi-mesures, tabula rasa, des peuples et des pays entiers ont disparu. La Mésopotamie, les Incas, les Mayas, les Athabasques, les Sorbes, le légendaire peuple des Bourrasques. Et toi, tu pleurniches à cause de cette vieille route abandonnée ? Mais qu'elle tombe enfin dans l'oubli ! Oui, une piste à la place de cette ruine, de cette beauté morbide. Et cette piste sera beaucoup plus qu'un simple ersatz. La beauté va sauver le monde. Non.
Mince alors, moi qui croyais. Je suis extrêmement déçu. Premier regard sur cette pièce de Peter Handke, Lucille Como.
Un étrange grand écart entre le coup de maître poétique et la logorée réactionnaire.
Caroline Châtelet.
Grand discours pour cheminement hermétique.
Et Marie Sorbier.
C'est un long poème en prose dans une mise en scène classique.
Alors, à propos de mise en scène, vous avez déjà évoqué le lieu, mais qu'est-ce qu'on voit sur le plateau, Lucille Comeau, et comment ça joue? Alors on sait, on vient de l'entendre là, c'est pas du tout un hasard que Peter Handke est un grand spécialiste des monologues, et c'est encore une fois le cas.
Oui, il y a beaucoup de monologues, pour le coup, Marie a décrit un petit peu le dispositif textuel. Il y a deux très gros monologues, et à l'intérieur, il y a quand même un très grand dialogue central, bon, qui ressemble quand même à une suite de monologues, on en parlera peut-être, parce que l'antagonisme, il prend quand même souvent la forme de grandes répliques. Et puis, il y a ce chœur qui est quasi muet, qui a des petits moments de dialogue, pour le coup, mais le dialogue est toujours faussé chez Handke, donc il ne se parle pas vraiment, ça, on peut dire ça comme ça. Sur les acteurs, bon, je vais un peu direct dans l'appréciation, ça joue très très bien, parce que c'est très difficile, donc c'est immédiatement très sensible, cette manière, à mon avis, excellente d'avoir dirigé les acteurs dans ces grands moments de monologue. Donc ça joue très bien, et ça joue dans un espace extrêmement large, donc qui est la scène du Théâtre de la Colline, qui est déjà assez large, et qui en plus bénéficie de deux grands pans de miroirs à cour et à jardin, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'une très très grande étendue, comme un scope au cinéma. Il y a quelque chose de très cinématographique quand on entre dans la salle. Donc il y a une fameuse route, la route départementale, qui est une route tout à fait ordinaire, à deux sens, en bitume, enfin avec un revêtement tout à fait classique, qui tourne à peu près aux trois quarts et qui arrive vers les spectateurs. Voilà. Et puis il y a une petite cahute faite un peu de briques et de broc. Bon, on ne sait pas trop à quoi elle sert, cette cahute, on en reparlera peut-être. C'est un élément de décor quand même assez important qui joue assez peu, qui pourrait être un refuge pour le personnage principal. Il y a un peu de mobilier, tout ça est un peu, disons, bidonvillesque. Voilà, il y a quelques haut-parleurs au sol qui diffusent de temps en temps une petite musique, donc qui est à l'intérieur du récit, parfois des bruitages. Il y a une très grande maîtrise de la lumière, comme le texte se passe suivant à la fois des saisons et des journées. On a vraiment des impressions de matin, des impressions de soir, des impressions d'été, de canicule même, des impressions hivernales. Et puis il y a des moments très spectaculaires avec des tableau, vraiment, il y a notamment une sorte de procession de deuil où tous les personnages du chœur sont en noir et avec un bruit d'orage et des lumières qui changent à ce moment-là. Moi, je trouve ça très maîtrisé, disons, du point de vue de la mise en scène et de la direction d'acteur. Après, j'ai beaucoup, beaucoup de réserves sur le texte.
Bon, on va y venir. Alors, les décors sont, comme souvent chez François de Jacques Gabel, les lumières de Joël Urbeck, et qu'effectivement, ce sont des orfèvres, l'un comme l'autre, allié au troisième, Alain Françon. Pour entrer vraiment dans la dispute, Caroline Châtelet, alors, des réserves?
Oui, en effet, des réserves, puisque moi je rejoins complètement ce que vient de dire Lucille Comeau sur le fait qu'on a un spectacle formellement extrêmement abouti, avec une scénographie qui est saisissante par sa beauté. Il y a quelque chose en même temps de très enfantin ou d'un peu naïf, qui moi aussi me renvoie aussi à un univers de conte. Mmh. On a même que ça passe aussi par la taille, par exemple, de ce petit bâtiment que vous évoquez, qui pourrait être une sanisette ou un arrêt de bus. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très doux, tout est en harmonie, une sorte de pointe de naïveté. Tout est en harmonie, ça passe, enfin, aussi dans les costumes des comédiens, dans la musique. Mais c'est paradoxalement, en fait, c'est comme si ça ne suffisait pas à rendre limpide ce texte, qui pour moi est assez hermétique et abscon, puisque donc, on a ce moi qui va s'opposer aux innocents. Donc nous-mêmes, nous sommes d'ailleurs des figures d'innocents, comme le dit la scénographie qui rejoint la salle, et comme le dit aussi les adresses régulières qui nous sont faites à nous spectateurs. Et donc ces innocents, ce sont aussi des figures qui sont très ironiques, en fait. C'est un petit peu des personnes qui font le mal sans le savoir. Enfin, vous disiez, Marie, innocent de tout, coupable de rien, et en même temps, ce sont des personnes qui font le mal. Et donc, on a Peter Handke qui se positionne en opposition aux innocents. Alors, les innocents lui reprochent son isolement, son étrangeté, son absence de dialogue. Et les innocents, ce serait aussi la figure de l'homme contemporain qui défend l'information, là où lui, Peter Handke, il défend l'inutile, la poésie, la puissance de la littérature et des ornements. Mais tout ça, ça se passe dans une sorte de logorée interminable.
Habituel chez Peter Handke. Enfin, logorée.
Mais...
Ça dit quelque chose. C'est connoté, enfin,
oui,
là, au départ, non.
Là, c'est connoté dans le sens où il y a une sorte de poésie qui est celle aussi du ressassement, de la répétition,
rien,
du ressentiment.
Rien de nouveau.
Du ressentiment et de l'aigreur.
Ça, c'est plutôt la version autrichienne.
Oui, mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui est plus récent.
À mon avis, il y a du nouveau, justement.
Il y a du nouveau de ce côté-là.
Oui, il y a du nouveau de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, la poésie ne masque pas le ressentiment ni l'aigreur.
Marie Sorbier, pas d'accord.
Non, pas d'accord. Moi, je l'aime son aigreur, en fait. Je trouve que dans cette pièce, on retrouve quand même les grandes thématiques chères à Peter Handke dans les derniers textes, c'est-à-dire cette recherche de la beauté qu'il ne trouve jamais, cette quête sans fin, le salut, l'attention aux mots. Moi, j'ai été très sensible à tous les moments où, en fait, il va dire qu'il emploie un mot pas tellement pour son sens, mais juste pour la sonorité. Donc, il y a tout un rapport esthétique, je trouve, au texte qui, moi, me touche parce que c'est des thématiques qui me plaisent. Et donc j'ai plaisir à les entendre. Et c'est quand même une langue, Handke, qui est assez incroyable. Enfin, moi, elle m'atteint, elle me touche. Je ne la comprends pas toujours, je suis assez d'accord. Il y a des passages assez obscurs, lyriques, oniriques. On ne sait pas trop où ils vont. Alors comme c'est porté, Lucille l'a dit, par des grands comédiens, je trouve que tout ça passe magnifiquement bien. Parce que ne serait-ce que de les regarder, notamment les deux rôles d'hommes qui, moi, m'ont vraiment plu, que ce soit Gilles Privat ou Pierre-François Garrel, et la scène, en effet, du duo, enfin cette scène de dialogue, la seule centrale, je trouve que c'est une des plus réussies du spectacle. Elle me touche à plein d'endroits. Alors, en effet, c'est très dense et riche dans le sens où il évoque un nombre, je trouve, de thématiques et il les survole, il les lance, il va lancer une phrase d'un côté, une phrase d'un autre. Moi, j'avais envie de noter, c'est un texte à punchline un peu, il y a quand même des répliques géniales. Alors, c'est aussi, ça pourrait être aussi une critique, mais il y a un côté jouissif de ce texte, je trouve, à prendre comme ça, à picorer, même si on l'appréhende pas dans sa globalité.
Vous l'aviez lu avant ?
Non, je l'ai relu après, par contre.
Lu après ?
Oui.
Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Lucille Comeau, alors, toutes ces réserves, ça change. Oui. Peter Handke, ça change. L'aigreur monte.
Je pense que en effet, l'aigreur a toujours été là. L'aigreur, c'est pas l'antimodernité. C'est-à-dire que ce texte, il flamboie pas comme la grande parole des antimodernes. Or, il se pose là, puisque le personnage, moi, je le trouve pas du tout hermétique, le texte. Justement, c'est peut-être le problème. Je trouve qu'il est très simple. C'est un personnage de misanthrope. D'ailleurs, de ce point de vue, c'est très intéressant que Françon enchaîne un misanthrope avec ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en dialogue. Un personnage qui regarde passer son monde est concrètement en mal. C'est-à-dire que la vieille route dont il parle, c'est la sienne, et la route des autres, à savoir nous aussi, c'est quand même assez générationnel et politiquement bien situé, moi je trouve. Je vois pas vraiment d'hermétisme. C'est quand même une sorte de complainte de l'homme occidental, de l'âge de Peter Handke, qui regarde ses valeurs partir un peu à volo et qui, quand même, les punchlines dont vous parlez, c'est aussi de la petite phrase, qu'on peut qualifier de petite phrase, donc quand on dit que les débats fonctionnent pas bien.
Précisément.
Qui s'adresse à la bien pensance, je pense, la complaisance, ces fameux innocents qui ne sont coupables de rien, ils ne sont coupables de rien parce qu'ils ne sont pas capables de formuler un jugement critique, parce qu'ils sont dans la correction générale de la pensée et qu'ils ne peuvent pas accéder à la poésie. Et si et là, on attrape quelques petites phrases, justement, qui, moi, ont fini par vraiment polluer mon écoute du texte, que, par ailleurs, je trouve très beau. Mais, par exemple, il est question, à un moment donné, d'insulter, parce que c'est un homme qui est évidemment invectif tout le monde, d'insulter les innocents. Donc, il y a plein de noms d'oiseaux qui courent et qui sont très poétiques. Ça et là, bon, il y a quand même livreur de pizza, on sait pas trop bien ce que ça vient faire là, ça commence à dissonner un petit peu dans ma tête. Et puis, expert des Balkans. Est-ce que c'est nécessaire, voilà, quand on connaît la
quand
position
Peter Handke,
voilà. Ouais. Ça, mais c'est un détail.
Il cherche.
Mais à partir de là, et c'est au début, bah c'est un petit peu difficile parce qu'on entend à quel point le texte doit résonner avec l'actualité et perd précisément à cet endroit-là en force poétique.
Alors, tout rappelons le côté pour celles et ceux qui ignoraient que Peter Handke a des affinités avec l'ancien régime serbe et qu'il a notamment prononcé l'éloge funèbre de Slobodan Milosevic.
Et que ça lui a coûté beaucoup de critiques au moment où il a reçu le Nobel.
Oui, enfin, voilà. Il y en a eu avant, beaucoup.
Ça a remonté à ce moment-là, je pense que le texte...
Le prix Nobel de littérature a fait ressurgir effectivement ses prises de position qu'il assume pleinement et entièrement jusqu'à aujourd'hui.
Oui, bien
et toujours,
sûr, mais l'assumer dans des textes... Voilà. Là, à l'intérieur de ce type de discours, ça crée simplement un rapport à la réception du texte qui est différent de la réception conception d'un grand texte poétique. Pareil, je finis juste là-dessus, il y a une scène où il se met, là c'est vraiment le misanthrope, à ramasser par terre des papiers que les gens jettent parce que les gens font pas attention à sa route, et donc jette des tickets de cinéma, des bouts des tickets de caisse, etc. Donc il lit, il pourrait y avoir quelque chose de beckettien à lire vraiment de manière hyper triviale ce qu'il a écrit sur les tickets de caisse, et puis à un moment donné il cite un film, et le film, je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper révélateur, il dit Die Hard 19, donc cette fameuse franchise avec Bruce Willis, donc le film d'action tout pourri qu'on va voir. Et là, pareil, c'est une manière... Non, mais moi, j'adore. Je me mets à la place du personnage.
Plaisante.
Non, mais cette manière d'inscrire l'invective dans quelque chose de un peu bassement réactionnaire,
c'est facile.
Voilà, me gêne. Et en fait, toutes ces facilités-là finissent par totalement polluer l'écoute du texte. Et moi, je ne voyais plus que vraiment un vieux qui crache sa valda, quoi. C'est assez désagréable. Parce qu'il y a des moments très beaux, et puis hop, on se retrouve avec une trivialité de morale de café de commerce qui est très désagréable.
Alors peut-être une courte réponse de Marie Sorbier là-dessus, avant de redonner la parole à Caroline Châtelet.
Moi, ça me fait rire, en fait. J'ai trouvé ce texte assez drôle, et tous ces moments-là... alors, oui, je dois avoir un petit côté réactionnaire, je ne sais pas, mais ça me fait...
Petit.
Bon, n'allons pas jusque-là. Mais ça m'a fait rire, oui. J'étais assez en joie, en fait, d'entendre cette parole-là. Après, je trouve qu'il la porte bien, ce personnage. Moi, ça me gêne absolument pas. Et toutes ces scènes... Alors, ce qui pourrait être gênant, mais encore une fois, je l'ai pris sur le ton de l'humour, alors peut-être que j'ai une déformation, mais ce cœur, il est quand même très caricatural. On est d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des jeunes... principalement, voilà, qui ont leur téléphone portable, qui cherchent du réseau. On a l'impression qu'ils vont s'installer là pour pique-niquer. C'est-à-dire, lui, sa zone où il allait regarder le petit scarabée bouger, bon, bah, il s'assoit. Et donc, il y a une vision de la jeunesse, ou en tout cas des générations post-lui, qui est problématique et en tout cas très caricaturale. Mais moi, je le trouve très assumé, et c'est dans cette caricature que ces insultes, ces fameuses insultes qu'on retrouve notamment dans plein de ses autres pièces. Mmh. Je me souviens d'une pièce Souterrain Blues ou Outrage au public, où il y a toutes ces parties d'insultes qui sont pour moi des trésors d'ingéniosité, je les trouve très drôles. Et donc voilà, il se sert de cette caricature et de ces traits un peu forcés du cœur et de lui pour jouer là-dessus. C'est un plaisir verbal.
La question, c'est une question de degré. C'est-à-dire que là où j'entends Lucille Comeau voit ce personnage comme un porte-parole de Peter Handke, vous voyez un personnage avec ses outrances. Enfin, je résume.
Oui, alors après, je suis assez d'accord. À mon avis, c'est un porte-parole de Handke.
Caroline Châtelet.
Oui, à la question des insultes, en fait, je pense qu'elles peuvent être dans certains de ces textes extrêmement fécondes et fertiles. Or là, on a quelque chose, pour moi, qui est vraiment de l'ordre du ressassement, de la répétition et qui est très stérile. Et c'est vrai que quand vous parlez de propos réactionnaires, Lucille Comeau, je vous rejoins assez. Voilà, c'est un misanthrope, c'est un pessimiste et c'est quelqu'un qui se met de manière volontaire et qui a une jouissance de ça dans la position de la personne à l'écart du monde, qui ne serait plus en accord avec la doxa. Enfin, l'idée de bien-pensance, je pense, pour lui, elle est là, quoi. Et c'est vrai que ça produit quelque chose, au final, de très étrange par rapport à cette mise en scène, puisque le paradoxe de cette mise en scène, c'est son raffinement, son côté qui est très, très séduisant sans être trop spectaculaire. C'est une mise en scène qui est à la fois classique et classieuse, qui donc sert la pièce, mais qui, au final, la sert peut-être trop, dans le sens où elle nous permet d'entendre le texte, mais où elle ne s'attaque pas à ce problème-là du texte. Donc la question de la signification même du texte, elle est évacuée par la mise en scène qui nous la rend juste comme quelque chose de profondément aimable et beau et presque qui nous la fait passer de la manière la plus positive possible en évacuant ce que ce texte raconte qui pour moi est éminemment problématique.
Oui, mais je pense qu'en effet, c'est d'ailleurs très étrange. Il y a des moments où ça frictionne, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus du tout le rapport entre la mise en scène et le texte parce que je pense, c'est une forme de lâcheté, c'est un grand mot, mais en effet de pas s'affronter à ce qui pose problème dans le texte, de le dire aujourd'hui. Enfin, quand même, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que c'est qu'un homme blanc de cet âge-là qui dit ça à ce moment-là au théâtre. Enfin, il y a quand même quelque chose de très particulier. Et la mise en scène fait un peu mine de pas s'en rendre compte.
Elle fait écran.
Oui, elle fait complètement écran. Et c'est très intéressant parce que ça pourrait être un misanthrope, mais c'est pas le misanthrope de Molière parce qu'il n'y a pas la dimension métaphysique. L'humour, il n'est pas fin. Enfin, évidemment, ça ne fonctionne pas comme la pièce de Molière.
Allez, on conclut avec Marie Sorbier à nouveau.
Oui, sur la mise en scène, j'ai été assez agréablement surpris. Moi, je ne suis pas une grande fan de Françon. Cette dernière mise en scène m'avait assez laissée à distance. Donc, alors que j'aime beaucoup Handke, comme on l'aura compris. Donc, j'étais un peu perturbée par ce qu'il allait advenir. Et j'ai trouvé que finalement, cette distance dont vous parlez et qu'il garde était nécessaire pour entendre ce texte. J'ai l'impression qu'il fallait être à cet endroit-là pour que, pour une première écoute, hein, c'est la première fois que ce texte est joué, donc on est dans un, dans une découverte, dans une révélation. Je l'ai trouvé assez malin, peut-être, de rester à cette distance-là pour que le texte soit livré sans trop de, justement, sans trop de parti pris pour une fois et sans trop d'angle.
L'inconnu le restera dans cette émission, c'est la géniale Dominique Valadier. Bon, on loue encore une fois son génie. Et on ne développera pas ici ce soir. Les innocents, moi et l'inconnu au bord de la route départementale de Peter Handke, mise en scène par Alain Françon jusqu'au 29 mars au Théâtre de la Colline à Paris. Puis ce spectacle se donnera, j'ai dit tout à l'heure, à la MC2 de Grenoble, précisément. Je retrouve mon petit papier. Du 2 au 4 avril. À Grenoble. Nous allons parler dans la suite de cette émission de Room with a View, de Ersatz et des procès au théâtre.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Room with a View, spectacle créé par le musicien Rhône et le collectif La Horde avec le Ballet National de Marseille.
No, you can't.
Yes,
go.
Yes, okay. Yes. Like
a Benson. Stay there!
Benson, I'm maniac. Arsene, it's got high maniac.
Est-ce que t'es un mec, ou quoi?
C'est ton fou, hein?
Aš tau pasakiau, blėt, stoj į kampą, jeigu nesistosi, aš nakui tave nupisu nuo vaizdo.
What is your problem? What is your problem? Because I'm a thousand kid, because you are
too proud. Cazzo, che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo.
Che cacchia, ne fosse tra. Che
cacchia, ne fosse tra.
Non cagli a terra, va bene.
Che deve venire, mi sto per la script.
Mi avete tutti rotto, coglio.
Non ti rotto, a morte. Non mi chiede, io.
Russe, on va.
Cette musique de Rhône, comme on peut la goûter en ce moment au Théâtre de Châtelet, qui, à l'heure actuelle, enfin, à l'heure où je m'exprime, cherche des solutions pour maintenir ce spectacle. La jauge du Châtelet, ça doit être un peu plus de 1000 spectateurs, mais des solutions sont en cours de recherche pour que le spectacle puisse rester à l'affiche. Mais ça, on ne peut pas tout à fait l'affirmer. Ce soir, on va essayer de comprendre ce qu'est ce spectacle, mais d'abord un premier tour de table, Caroline Châtelet sur Room with a View.
Alors, de la fausse route au cul-de-sac.
Lucille Gaumont.
Bah justement, moi je dirais à quoi ça sert de faire ça là.
D'accord, et Marie Sorbier.
En fait, c'est un concert et non pas un spectacle chorégraphique.
Il y a des choses à dire sur chacune de ces remarques, mais pour comprendre un peu mieux, Caroline Châtelet, vous nous expliquez comment il est conçu, justement, ce spectacle.
Oui, alors déjà, juste pour préciser, c'est vrai qu'avant même de rentrer dans la salle du Châtelet, dès le hall, on entend des sons sourds, donc ce sont les basses de la musique, donc parce que Rhône, donc le musicien aka Erwan Castex, il est avec quelques danseurs présents en scène dès 30 minutes avant le début de la représentation. Donc lorsque nous, spectateurs, nous prenons place dans la salle, la scène est déjà visible. Elle est éclairée d'une lumière blanche. Dans la salle, les lumières sont amusées et ces lumières vont pulser parfois de manière stroboscopique en rythme avec le set électro. Donc la scénographie représente une impressionnante, par son gigantisme, carrière de marbre. À Jardin se trouve la carrière. Il y a une excavation en haut de celle-ci qui accueille la table où est installé Rhône. Le DJ nous tourne le dos, donc on comprend que les danseurs se trouvent de l'autre côté, inaccessibles pour l'instant à nos regards. Une jeune femme danse près de lui. Il y a un couple qui escalade une partie de la carrière, qui se dispute, s'enlace, qui réalise des postures. Et c'est vrai qu'à quelques signes, la palette qui se trouve sous la table de mixage, le fait que les blocs de marbre situés à court soient emballés dans du plastique, ou la présence encore d'une machine fixée à un rail à jardin, qui est une réplique de celle permettant la découpe des blocs dans les carrières de marbre, on comprend que cette carrière est encore en activité et que donc il s'agit d'une free party. Donc voilà, donc bientôt le reste des danseurs va rejoindre le DJ et Room with a View va débuter. Donc pendant un peu plus d'une heure, cette performance chorégraphique et musicale qui est interprétée donc par 18 danseuses et danseurs de tous membres maintenant du ballet du Centre chorégraphique national de Marseille. Ils vont se balader dans différents tempos et rythmes. Il y a un petit peu deux parties. Il y en a une où Ron est installé en hauteur et une autre où il est au plateau, au même niveau que les danseurs. Il va y avoir différents mouvements et pulsations, des moments en duo et d'autres moments collectifs où on a presque des phalanges, donc avec quelque chose de très belliqueux et guerrier, avec des cris de rage, des droits d'honneur, et d'autres moments en duo, plus en petits groupes, avec des portées.
Belle description. On a quelques images comme ça, grâce à vous, Caroline Châtelet. On peut vraiment se disputer maintenant. Marie Sorbier.
Oui, alors moi, au début, j'étais très heureuse parce qu'on nous distribue un petit livret à l'entrée. Et dans ce livret, il y a deux textes, dont un de Damasio, donc qui accompagne un peu le spectacle, qui est venu, on nous dit qu'il est venu
un
voir
Damasio,
les répétitions.
Auteur de polar, très connu, qui vend beaucoup de livres.
Exactement, auteur science-fiction, on peut dire ça comme ça. Et puis... Baptiste Morisot, alors Baptiste Morisot, moi qui est un philosophe que j'aime beaucoup, spécialiste du vivant, enfin qu'on entend aussi beaucoup, cet ancien jeune philosophe, professeur ex-Marseille d'ailleurs. Donc je vois ces deux textes assemblés dans le livret de salle, je me dis super, je suis dans un élément qui me convient, enfin j'étais très heureuse de voir ce spectacle, bon très bien. Et puis après j'ai été un petit peu déroutée par ce que j'ai vu, jusqu'au moment où je me suis dit qu'en fait, non, je n'étais pas là pour voir un spectacle chorégraphique, j'étais là pour entendre un concert. Et au moment où mon cerveau a fait ce tour-là, j'ai commencé à pouvoir apprécier, alors apprécier c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas à pouvoir être présente à ce qui est en train de se passer. Alors je m'explique. Autant la musique de Ron est totalement envoûtante, hypnotique. Moi je suis partie très vite avec lui dans ces grandes vagues comme ça. On est au Châtelet, la musique est assez forte. Hein. On distribue d'ailleurs des boules qui à l'entrée pour ceux qui souhaitent. Bon, très bien, donc on part avec lui volontiers. Autant j'ai trouvé que le problème de la Horde, c'est que je n'ai pas vu leur grammaire chorégraphique du tout. Alors j'ai pensé à plein d'autres chorégraphes, alors notamment en premier lieu à Gisèle Vienne. Je trouve qu'il y avait alors vraiment une ressemblance très forte avec un de ses derniers spectacles qui s'appelle Crowd, mais quand même en moins abouti, parce que Gisèle Vienne avait un parti pris assez radical. Hein. C'était aussi une rêve partie qu'elle avait proposée avec un ralenti. Donc pendant une heure, on avait cette rêve au ralenti. C'était à Nanterre il y a pas si longtemps.
Je fais la parenthèse pour dire qu'on a parlé du film de Patrick Chias, si c'était de l'amour, vendredi dernier, qui est en salle et qu'il faut absolument aller voir, qui s'intéresse au processus de la création de Crowd.
Et ou même à Maggie Marin par moment dans les unissons. Enfin voilà, il y avait plein de citations comme ça. Par contre, leur grammaire à eux, leur vocabulaire chorégraphique, je l'ai pas tout à fait vu. Et j'ai trouvé surtout qu'il y avait quelque chose de très illustratif. C'est-à-dire, ils étaient vraiment là pour accompagner le musicien et que c'était pas un spectacle en soi.
Lucille Gomeau à présent sur Room with a View.
Oui, moi j'ai beaucoup de doutes et c'est bien que Caroline vous ayez rappelé les conditions dans lesquelles on rentre dans ce spectacle, sur les conditions d'avènement de ce type de spectacle au Châtelet, si c'est pas justement de l'ordre de vraiment de la provocation, c'est-à-dire de l'irruption de quelque chose de totalement différent. Le théâtre du Châtelet, c'est un grand théâtre à l'italienne, il y a des ors partout. Là, on est assis, exactement de la même manière que devant n'importe quel spectacle. Comme vous l'avez dit, en plus, les lumières, quand on rentre, ça a déjà commencé, c'est pas si fort que ça, malgré tout. Donc, on est quand même très bourgeoisement installé dans des fauteuils en velours rouge devant un spectacle qui, dans le fond, est un spectacle normal, entre guillemets. Si on lit avant le petit laïus qu'on nous distribue, qui est quand même en effet assez conséquent, il y a plusieurs textes, c'est extrêmement lyrique. Bon, le texte d'Amasio est très bien, Baptiste Morisot aussi, évidemment, mais il y a aussi un texte de présentation de la Horde, hyper lyrique sur la révolte, les générations d'aujourd'hui, ok boomer. Donc on s'attend à quelque chose d'un peu irruptif, hein, qui crée un sentiment de révolte, d'effroi. Or, moi je trouve que ça ne crée absolument rien. C'est d'autant plus intéressant que ça se passe à un lieu où il y a quand même eu un grand mouvement qui s'est appelé Extinction Rébellion, qui essayait de créer une nouvelle forme de mobilisation précisément à l'endroit de la place du Châtelet. Et ça crée on peut pas ne pas penser à ça. On se retrouve complètement assis avec une musique qui nous donne envie de danser concrètement, qu'on aimerait presque plus forte parce que autant y aller quoi. C'est un set d'électro, éteignez vraiment les lumières, arrêtez de faire clignoter ce plafonnier, c'est absolument ridicule, et mettez-nous de la musique à fond. Or, ce n'est pas le cas. Le décor dont vous avez parlé coche toutes les cases de la dystopie, du post-apocalyptique, de tous ces clichés qu'on n'en peut plus de voir dans le cinéma, dans les séries, qui en fait, en soi, ne signifient plus rien. C'est la fin du monde, oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous en dites? Les mouvements, en effet, sont une sorte de grammaire chorégraphique que moi, par ailleurs, je trouve assez laide, mais qui, dans sa brutalité, pourrait apporter quelque chose. Mais c'est très vain, on les regarde, on est presque mal pour eux parce qu'ils se tapent la poitrine à s'en rougir la peau. C'est épuisant, je pense, c'est quelque chose de physiquement très engagé, très engageant. Et pour autant, je pense, à cause aussi des conditions dans lesquelles on est, ça ne crée aucun mouvement de révolte. Moi, je suis sortie, j'avais pas du tout envie d'aller me taper. Enfin, j'avais juste envie d'aller me coucher. Et je pense que c'est un peu un contresens de faire ça aujourd'hui sur ces thématiques-là. Il y a quand même un moment où c'est un pseudo-cortège de tête, donc ils envoient des gros fucks à, donc nous, le public, mais bon, on imagine à des CRS en face, ça mime une sorte de manif sauvage, donc c'est quand même quelque chose qu'on voit tous les jours sur des vidéos de violences policières. C'est très gênant, en fait, de voir ça dans ces conditions-là. C'est un peu pimp à ton cortège de tête avec Rhône. Bon, ceci dit, bon, j'y reviendrai peut-être, je trouve que la musique est très bien, donc en effet, c'est un concert. Enfin, il vaut mieux que ce soit un concert.
Caroline Châtelet, de façon peut-être plus concise, vu le temps qui file.
Il est vrai qu'en fait, c'est assez étonnant d'avoir comme ça, face à soi, des danseurs qui soient dans une telle dépense physique. On est vraiment dans une danse qui est danse des limites, une danse qui va vers l'épuisement, avec un rythme soutenu, hyper cardio. Il y a quelque chose, vraiment, oui, comme s'ils voulaient eux-mêmes aller vers l'éreintement. Et où en même temps, moi, par rapport à cette danse, je n'ai strictement rien ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, le côté organique de cette danse est complètement évacué. Donc, c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois, comme vous le disiez, une revendication politique, mais où au final, ces corps eux-mêmes, ce sont des figures qui n'existent pas, où il n'y a pas non plus, pour moi, de singularité. Et ça, c'est ce qui est très, très différent, justement, avec le spectacle Crowd de Gisèle Vienne. D'ailleurs, enfin, bon, il ne s'agit pas du tout de comparer ces.
On est obligé, si on connaît l'un et l'autre.
C'est deux travaux, mais c'est vrai qu'en même temps, Gisèle Vienne, elle réussit sans être ni dans quelque chose de littéral, ni dans le mimétisme, ni surtout pas dans quelque chose d'illustratif, à nous donner à voir toutes les pulsations et tous les mouvements de ce que sont les free parties et de ce qui anime ces moments-là. Or là, en fait, on est au contraire dans quelque chose qui se voudrait un peu réaliste par certains moments et par d'autres avec des échappées plus poétiques, mais où on passe complètement à côté de la puissance et des leviers aussi d'énergie que peuvent produire ces expériences-là. Donc c'est vrai qu'en plus, par rapport à l'ambition du propos qui est, comme vous le disiez, extrêmement lyrique, on a quelque part un spectacle qui, pour moi, me semble un peu aseptisé, édulcoré, qui est très produit. Donc tout y est, mais il y a pas de, enfin, il manque un propos, en fait, il manque une densité.
Le propos, il y est, c'est presque alors, ça le problème.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre,
Caroline Châtelet, parce que le propos, il est très bien énoncé, la Horde s'exprime très bien sur le projet, ils sont très structurés intellectuellement, donc le spectacle l'est aussi, il l'est tellement que moi j'ai longtemps attendu que ça danse. Quand même, le spectacle dure environ 1h05, une fois qu'il a vraiment commencé. Il faut bien 45 minutes, si j'en crois ma montre, pour qu'il y ait des mouvements dansés qui, tout d'un coup, moi, m'ont produit quand même quelques effets, surtout à la fin, pour le coup, quand ils sont vraiment en horde, à ce moment où les garçons se rougissent la peau, mais pas que les garçons, mais eux, ils sont plus souvent torse nu, et qu'on voit les marques rouges sur leur peau. Là, il se passe quelque chose à ce moment-là, à partir du moment où ils commencent à marcher, ils font une diagonale au ralenti, bon, mille fois vu, mais la façon dont elle se désintègre cette horde, la façon dont les gens passent à travers, ressortent du groupe. Là, je trouvais quand même qu'il se passait quelque chose, mais non, mais vos propos sont si à charge que je me dis que je vais quand même défendre quelque peu le travail. Après, j'aime infiniment Rhône, c'est pas la première fois qu'on en parle évidemment dans cette émission. J'ai trouvé par contre la scénographie, vous en avez parlé, moi je la trouve d'une extrême laideur, tout comme les lumières, pardon, pour ses créateurs, mais on est là pour exprimer nos, nos propos. Et c'est vrai que Mille fois vu n'est pas Castellucci qui veut, non plus avec les machines qui font aussi vraiment penser à certaines de ses propositions des dernières années, souvent imitées. C'est pas demain qui sera égalé. Vous vouliez ajouter Caroline Châtelet, mais comme vous allez parler ensuite sur votre coup de cœur, soyez concise.
Oui, c'était juste en fait pour le propos, vous avez raison, il y a, mais c'est l'écart entre les ambitions dans le programme de salle et le fait d'avoir, par exemple, une chute de poisson était nettoyée par des personnages en costume, qui sont en combinaison noire ou blanche dans un univers post-apocalyptique.
Performance de Romeo Castellucci à la Villette.
Extrêmement lisible. Ça montre
le sac du printemps, oui, en plus. Dernier mot, Lucille Comment.
Justement, moi, il y a un seul passage qui m'a un peu prise, et là, je me suis dit, ah oui, en effet, ça va pas. C'est un passage, c'est un solo. Donc, c'est un des jeunes danseurs qui danse tout seul, mais il danse exactement comme le mec qui danse bien dans un club. Et le seul effet que ça produit,
bureau,
mais qui est, ouais, qui fonctionne très bien, enfin, qui fonctionne très bien surtout, c'est qu'on a envie de danser, mais on est bloqué sur notre fauteuil.
Sur ce solo-là, moi j'ai trop vu le garçon du ballet de Marseille
Mais c'est très bien ça. Moi ça m'intéresse plus que que vous avez décrit. Ouais, tout à fait. Que les mouvements collectifs, on a compris. Le collectif, on est tout seul, on est à plein. Enfin bon.
Marie Sorbier, pour terminer peut-être.
Oui, non, rien, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire, c'est vraiment un spectacle qui coche toutes les cases du moment. Donc on a toutes les thématiques, l'écologie, l'écroulement, cette carrière qui tombe, enfin on a tout. Et puis beaucoup de bien-pensance. Et puis alors, pour le coup, la révolte qui est vraiment presque risible. Ça en devient risible en fait.
Mais, et on le dit toujours parce que nous sommes des gens honnêtes, vous étiez à la première, je crois, Lucille, nous n'y étions dimanche, à la fin du spectacle, le monde se lève, applaudit, hurle son bonheur d'être là et d'avoir passé ce moment ensemble.
Faut peut-être pas trop conseiller à Peter Handke d'y aller, mais...
il va pas mettre 4 ans à écrire sa prochaine pièce.
C'est peut-être un public différent des autres productions du Châtelet aussi, réussi à attirer.
C'est un public différent qui commence à venir au Châtelet pour des propositions effectivement différentes. À propos d'ailleurs, on reverra du 27 au 31 mai This is How You Will Disappear de Gisèle Vienne dont on parlait. Je crois que j'irai bien pour la 5e ou 6e fois voir un des plus beaux spectacles des 20 dernières années. Rien que ça. Bon, Room with a View. Il se trouve que l'échantillon non représentatif qui est autour de cette table n'a pas particulièrement apprécié cette proposition, mais que le public, lui, plébiscite. En tout cas, il a plébiscité dans les représentations où nous étions. Room with a View, mise en scène du collectif La Horde sur une musique de Rhône. C'est jusqu'au 14 mars, normalement, au Théâtre du Châtelet. Caroline Châtelet va nous livrer son coup de cœur pour Ersatz de Julien Mélano, dont j'aurai les prochaines dates, une tournée, donc il risque de passer près de chez vous. De quoi s'agit-il ?
Alors, un ersatz, c'est un produit de consommation qui est destiné à remplacer un produit naturel de revenu rare ou un succès d'année. Donc c'est cette question des produits de substitution à l'ère des nouvelles technologies qu'explore ce spectacle, donc comme vous le disiez, qui est conçu et interprété par Julien Mélano du collectif Aïe Aïe Aïe. Donc lorsque nous, spectateurs, nous prenons place dans la salle, un homme est en scène. Il se tient assis derrière un bureau qui est constitué de 3 écrans lumineux et derrière lui, 3 mêmes écrans fixés horizontalement vont fournir la lumière du spectacle. Un spectateur attentif pourra remarquer la présence au sol d'un cutter. Donc cet homme qui est stoïque, complètement impassible, vêtu d'une chemise à carreaux rouges, de celle que portent les bûcherons ou désormais les hipsters. Donc initialement vêtements de travail, ces chemises sont devenues un objet fétichisé, qui sont aujourd'hui vidées de leur fonction originelle. Il s'est opéré une substitution de sens, un glissement. Et avec beaucoup d'humour et d'intelligence, Ersatz va explorer un autre glissement. Donc dans le dispositif qui est très sommaire mais aux accents clairement futuristes, l'homme se retrouve aux prises avec un univers composé d'ersatz. Des ersatz qu'il va lui-même composer et inventer. Il ne parle pas, mais des bruitages accentuent et amplifient chacun de ses mouvements. Donc, il signale aussi bien sa déglutition, ses mouvements de tête ou de bras, ses clignements d'yeux ou les sons des papiers qu'il déchire et assemble. Donc en utilisant les différents éléments qui sont placés devant lui ou qu'il tire de son bureau, il va construire différents objets à l'aide de cutters. Les matières premières sont sommaires, il y a de la laine, des morceaux de papier ou carton, du papier mâché. Tout ce qu'il élabore, c'est d'une facture très simple et Et tout ce qui manipule aussi, après, c'est toujours aussi très, très simple. Mais en fabriquant, par exemple, des lunettes de réalité virtuelle, ou en branchant un cerveau de laine à un ordinateur de papier mâché, ou en se coiffant d'un casque, cet homme va accéder à d'autres mondes, à d'autres univers, à d'autres temps et espaces. Tous ces temps, ces espaces et ces univers, nous ne les voyons pas, mais on perçoit leur existence, notamment par la création sonore. Donc là où les objets du théâtre d'objets, ils incarnent généralement un personnage, ou en tout cas nous donnent à voir les mondes explorés, ici, ils nous demeurent inaccessibles, et ce sont les médias, ils sont les médias et les vecteurs qui permettent d'y accéder, qui nous sont révélés. Ce ne sont que des médias, des vecteurs qui permettent d'éprouver d'autres expériences et récits et de traverser différents états et émotions. Donc avec beaucoup de fantaisie, d'intelligence et d'ingéniosité, et aussi une grande précision dans l'interprétation, Ersatz nous renvoie aussi bien aux bouleversements qui sont induits par les nouvelles technologies et à la manière dont elles affectent nos existences et dont aussi elles refaçonnent nos imaginaires et le champ de nos expériences.
Tournée d'Ersatz de Julien Mélano, les prochaines dates le 12 mars à l'avant-scène Montfort-sur-Meu, le 21 mars au Centre Dramatique National de Strasbourg pour le Festival des Giboulées, le OTJP. Festival Saperlipuppette à la Chapelle-sur-Erdre le 2 et 3 avril, 9 et 10 avril au Centre Dramatique National de Nancy-Lorraine, 6 et 7 juin au Nouveau Théâtre de Montreuil. C'est l'heure d'ouvrir le journal. C'est Lucille Gomeau qui s'en charge pour nous avec cette idée. Quand la salle de spectacle et la cour de justice ne font qu'une.
Oui, unité de temps, de lieu d'action, le procès et la pièce de théâtre semblent faits l'un pour l'autre. De lieu de rituel, de lieu d'une catharsis possible, de lieu à haute teneur politique, de lieu de la langue aussi. Ces derniers mois, les procès fleurissent sur les scènes du théâtre français. Un procès célèbre notamment celui historique de Bobigny. Dans les faits, il s'est tenu à l'automne 72 avec 5 femmes sur le banc, l'une d'elles accusée d'avoir avorté à 16 ans à la suite d'un viol, les 4 autres de l'y avoir aidé. À la défense, l'avocate Gisèle Halimi, dont l'acharnement et la qualité de la plaidoirie eurent un très grand retentissement en France et contribua largement aux débats qui aboutirent à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ce procès hors norme a fait l'objet de 3 adaptations théâtrales ces derniers temps, tout à fait différentes et qui permettent de penser ce qu'on peut faire de la forme procès sur une scène de théâtre. La première est signée Pauline Bureau, elle s'appelle Hors la loi et met en scène le procès de manière très classique. Un comédien, ou plutôt en l'occurrence une comédienne par personnage, l'accusée Marie-Claire Chevalier a participé à son élaboration et sur scène, la cour a été fidèlement reconstituée dans toute sa solennité avec plaquage en bois et barres traditionnelles. Plus récemment, le spectacle Reconstitution, le procès de Bobigny, mettait en place à partir de la même matière un tout autre dispositif. Les spectateurs étaient invités à circuler au milieu de chaises, à écouter au casque des montages d'archives et de témoignages inédits, sans commentaires. Une proposition plus proche du théâtre documentaire. Dernier cas de figure, enfin, Richard Berry. Dans un seul en scène intitulé « Plaidoirie en robe d'avocat », dit entre autres la longue tirade de Gisèle Halimi prononcée à l'automne 72. 3 dispositifs, 3 rapports au théâtre différents, 3 économies aussi différentes pour le même objet, cet objet judiciaire qui fascine la scène. Dans le dernier cas, celui du seul en scène de Richard Berry, c'est assez peu élaboré, le théâtre c'est la cour, l'éloquence du comédien c'est celle de l'avocat. C'est un spectacle qui identifie le procès à la pièce de théâtre, qui colle les 2 langues et le spectateur est en quelque sorte le même que l'auditeur curieux des salles d'assises. Dans le cas du travail de Pauline Bureau, il y a comme souvent une volonté pédagogique, montrer comment la justice française a évolué, comment la loi, les mentalités ont changé, en simplifiant, en incarnant et en expliquant. S'il s'appelle paradoxalement Reconstitution, le dernier spectacle pose un rapport plus complexe à la forme procès, en refusant justement de la reconstituer comme telle sur une scène de théâtre, et en la morcelant et en faisant une expérience singulière et individuelle. 3 bons exemples, il me semble, pour penser ce rapport entre les formes théâtrales et judiciaires. Est-ce que ce rapport est simplement pratique, voire paresseux, hein, le spectacle et la cour, c'est la même chose, emparons-nous des procès comme de textes tout près? Ou est-ce que la justice et le théâtre ont quelque chose à dire l'un de l'autre?
Eh bien.
Vous avez 4 heures.
On a 10 minutes. Bon, on va essayer de répartir équitablement qui se lance. C'est Marie Sorbier.
Eh bien, allez.
Ben voilà.
Ce que je trouve intéressant, c'est le cas Pauline Bureau. Alors, on en avait parlé ici, d'ailleurs, mm-hmm. ensemble, je crois. Et je trouve que dans son spectacle, c'est peut-être bien pour démarrer de partir de là, parce qu'il y a, pour moi, la problématique du sujet que vous avez énoncé. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le spectacle de Pauline Bureau est constitué de deux actes. Un premier acte qui est la reconstitution du viol, qui est une partie très illustrative, figurative. On est dans l'appartement, on comprend ce qui se passe, le viol dans la chambre du copain, la mère qui essaie de trouver des solutions, la solution est trouvée, l'avortement. Très bien. Et qui était une partie qui, en tout cas de mon point de vue, était très télévisuelle et peu théâtrale. Et la deuxième partie de la pièce de Pauline Bureau, qui était donc la reconstitution du procès avec Gisèle Halimi en personnage principal et puis tous les témoins de l'époque, hein, tous les intellectuels et les stars de l'époque qui s'étaient engagés dans ce procès, puisque c'était pas le procès d'une femme, mais le procès contre l'avortement. Je trouve que dans cette proposition scénique-là, il y avait du théâtre. Et ce qui me semble assez caractéristique, c'est de voir à quel point la forme procès est théâtrale en elle-même, puisque dans une mise en scène qui pour moi ne l'était pas du tout, finalement au moment où on touche à l'audience et à la plaidoirie, on était totalement dans le théâtre. Donc je trouve que le rapport de force est bien indiqué dans cette proposition qui ne m'a pas convaincue pour autant, et j'ai préféré mille fois la proposition reconstitution qui laissait une place beaucoup plus grande au spectateur de se faire sa propre idée ou pas. Mais en tout cas, il y avait de l'espace pour penser. Ce qu'il n'y avait pas forcément dans le spectacle de Pauline Bureau ou qu'il n'y a pas forcément dans le spectacle de Richard Berry où la plaidoirie est donnée telle qu'elle, au mot près, à la virgule près, il la restitue. Qui est un spectacle qui a beaucoup de succès, hein, d'ailleurs. C'est un des grands succès du privé des derniers mois.
Qui reprend là en mai, et j'ai l'impression que c'est assez énorme, alors que c'est très simple, c'est une juxtaposition de textes de plaidoirie.
Mais ça hypnotise plutôt, enfin les gens qui témoignent de sortir de ce moment-là en ayant l'impression d'avoir vécu un moment citoyen, on a des mots comme ça, que c'est important d'entendre ces plaidoiries-là, donc il y a quelque chose qui parle visiblement au monde. Et puis Dupont-Moretti, hein, qui a fait avocat aussi. Fameux et célèbre qui va reprendre son spectacle, s'appelle Dupont-Moretti à la barre, je préfère le site, qui va reprendre son spectacle bientôt, et puis Maître Vergès quand même juste avant, enfin il y a quelques années, qui avait aussi fait un seul en scène de ses propres plaidoiries qui s'appelait Serial Plaideur. Donc on a quand même cette figure de l'avocat star qui lui-même monte sur scène, et ce rapport un peu poreux entre le comédien et l'avocat.
Caroline Châtelet.
Oui, alors c'est vrai que ces liens procès et théâtre, en fait, ils existent depuis extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque quand on se penche sur la littérature, sur le sujet, on voit qu'il y a autant des personnes, enfin, en études théâtrales que des personnes aussi, enfin, spécialistes du droit qui s'y sont intéressées. Donc c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, c'est que on comprend que ça puisse intéresser des deux côtés puisque le procès en soi, c'est déjà une représentation. Enfin, une représentation ou une représentation, dans le sens où la justice, par la voie du procès, c'est un lieu où on va rendre visible aussi ce qui n'est pas visible habituellement, on va rendre présent. Après, par rapport au cas que vous évoquez du procès de Bobigny, ce qui est quand même assez remarquable dans le travail d'Émilie Rousset et de Maya Boquet, c'est que elles réactivent au final la réflexion qui a cours dans un procès. C'est-à-dire qu'en fait, elle déplace complètement les usages et les frontières du théâtre. Et en fait, elle nous reconnecte à cette histoire, elle nous renvoie à des luttes d'aujourd'hui, elle nous amène aussi à repenser ce procès par rapport à notre monde contemporain. Ensuite, pour continuer de rebondir sur tout ce que vous avez dit, puisque vous avez évoqué Richard Berry avec plaidoirie, Dupont-Moretti, ou le procès de Bobigny, nous sommes à chaque fois ici sur des spectacles qui parlent de procès réels, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, alors que le procès, il est présent depuis toujours dans la littérature dramatique, dès les tragédiens, et même jusqu'à Bertolt Brecht, enfin, vous avez Georges Courteline, André Vercors aussi, on a parlé. Il y a même Robert Badinter qui a fait une pièce de théâtre aussi, qui a en son sein un procès. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les plateaux de théâtre, c'est la nécessité de convoquer le procès réel. Comme s'il y avait une sorte de souci de vérité même de l'appareil judiciaire, et parfois c'est même l'appareil judiciaire, puisque si on prend Michel Didim
qui lui monte les comparutions immédiates, ce n'est pas un procès in extenso, ce sont plusieurs comparutions immédiates. Ou ce qui compte, ce serait presque les rouages de l'administratif et de la machine judiciaire.
Elle a aussi basé sur une enquête de terrain extrêmement poussée par une sociologue.
Qui a été produite par Dominique Simoneau, journaliste et spécialiste des affaires judiciaires. Donc il y a vraiment le besoin du procès, il s'incarne aujourd'hui différemment dans le théâtre qu'il a pu le faire il y a quelques décennies. Et ce mouvement-là, il a été peut-être impulsé aussi d'abord par Robert Hossein quand il a monté l'affaire Sesnec. Ce qui était quand même extrêmement particulier, où les spectateurs devaient voter. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a comme un souci de vérité, où ce serait plus dans une tragédie ou dans un spectacle la question du procès, mais...
Ah, est-ce que je peux faire un pas de côté, Lucille Cobo, comme une relance? Parce que sur la question de... C'est à cause de Peter Handke que je pensais à cela. Et je pensais à la question du monologue. Et je me demandais si le monologue, c'était pas souvent aussi une plaidoirie. Ce qui peut être le cas. Je pensais du coup à cette fameuse pièce de Pascal Ambert, Clôture de l'amour, qui voit un couple se déchirer. On pourrait dire que dans la première heure du spectacle, c'est l'homme qui met en accusation, c'est une sorte d'avocat général qui condamne la femme en face de lui. Et elle lui répondra, c'est la défense dans la deuxième heure, et elle emportera la mise. Et je crois que c'est une fonction comme ça du monologue. Mais chez Peter Handke aussi, dans Par les villages ou dans d'autres textes comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'inconnu, puisque j'ai pas encore vu ce nouveau spectacle de Peter Handke. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une mise en accusation et que la forme monologue, elle renvoie évidemment à la plaidoirie. Lucille Cobo.
C'est parce que c'est toujours cette question de du fonctionnement rhétorique du langage et de son côté de presque perlocutoire. Qu'est-ce qu'on fait pour agir à la fois sur le personnage qu'on a en face de soi et sur le spectateur? Moi, je trouve qu'en général, ça donne plutôt des mauvais spectacles d'écrire pour la scène en ayant en tête ce type de fonctionnement de la langue. Et bon, c'est pour ça que je suis pas très très friande des textes de Pascal Rambert, par exemple, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très rhétorique et que ça tourne assez rapidement à vide. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous dites et dans le rapport au texte de procès, c'est vraiment dans quelle position ça met le spectateur d'utiliser ce type de rouage. Et il y a vraiment deux positions. C'est ou la position du voyeur, là c'est plaidoirie. C'est-à-dire vraiment être comme aux assises, on vient voir pour voir ce qui se passe, comment ça se passe. Qui est un réflexe tout à fait par ailleurs commun et pas moralement condamnable. Et une position de juré, qui est quand même très différente. C'est ce que vous disiez avec reconstitution. C'est-à-dire qu'on se met dans une position d'adopter plusieurs points de vue différents, plusieurs niveaux d'analyse possibles sur un fait, et d'essayer de dégager une vérité, mais dans un sens de la vérité qui est quand même très particulier dans le cas du judiciaire. Et ça, je trouve ça intéressant pour penser la réception d'un texte de théâtre.
Marie Sorbier.
Oui, ce qui est fascinant, je crois, c'est que dans la plaidoirie de l'avocat, il y a de la performativité. C'est-à-dire qu'à l'issue de sa plaidoirie, il va faire condamner ou sauver son client. Donc il y a quelque chose
de très concret.
Il faut convaincre un jury. Et j'ai l'impression que la fascination qu'a le monde du théâtre pour le monde de la justice, c'est peut-être ce rêve de performativité. Est-ce que ma langue est assez forte pour convaincre celui que j'ai en face de moi et pour faire changer et pour le faire se déplacer finalement? Et je crois que la porosité, elle vient aussi de là. Chaque acteur a certainement envie de pouvoir sauver ou condamner quelqu'un en face de lui comme l'avocat peut le faire.
Caroline Châtelet.
Oui.
Non, pas inspiré par nos dernières réflexions.
Non, mais si, mais en fait, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, Marie, en tout cas, on a vraiment ce jeu-là, ou en tout cas, le théâtre, je pense que son appétence pour le procès, c'est aussi quelque chose dans cet ordre-là, dans les analogies aussi entre le fonctionnement judiciaire et théâtral, quoi, où on a des acteurs qui s'affrontent par le verbe dans un espace déterminé pour un public.
Moi, je pense que c'est aussi une impédance pour le politique, et ça rejoint l'éternel débat qu'on aura décidément à chaque fois sur prendre le procès de Bobigny. C'est pratique pour faire parfois mine de aussi parler de la société française et avoir une sorte d'action concrète sur l'esprit des temps, le pouls du pays, tout ça, quoi. Et ça, j'ai beaucoup de doutes sur cette capacité-là du théâtre, mais on ne va pas refaire Olivier Neveu en 2 minutes.
Caroline Châtelet, pour finir.
Du politique ou parfois complètement de l'émotionnel, puisque moi, pour avoir vu la première de comparution immédiate de Michel Didim et Justice, où là c'était plusieurs comédiennes qui
on en a parlé
avec
ici aussi.
Des scènes d'audience, je trouve que c'était vraiment la ficelle des affects et de l'émotion qui était tirée dans ces deux spectacles.
On en reparlera, ma chère Lucine, de ces questions-là. De toute façon, tout se rejoint. reparler de tout cela. Parlons du jeu de la dispute. Voilà qui nous intéresse grandement. Lola Schiedler va nous rappeler la question qu'elle posait elle-même vendredi soir et nous donner sa réponse d'abord.
En quelle année a été créé le festival Sans Dessus Dessous? Et la réponse est 2012.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour aller voir un spectacle dont on parlera lundi prochain, me semble-t-il. C'est Illusion perdue d'après Balzac, c'est une mise en scène de Pauline Bail. Des places à gagner pour lundi 16 mars, c'est-à-dire juste après la dispute à 21h, vous pourrez aller au Théâtre de la Bastille. La question, Lola.
À qui Honoré de Balzac a-t-il dédié son roman Les Illusions perdues?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Lola Schiedler. Prise de son ce soir, Anthony Thomasson. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, une dispute consacrée à la musique. Je serai en compagnie d'Anna Sigalevitch, Charles Ardenne et Laurent Burry. Nous parlerons de Manon, de Jules Massenet, dirigé par Dan Ettinger, mise en scène Vincent Huguet. Roméo et Juliette de Charles Gounod, direction musicale Paul Daniel, mise en scène Justin Way. Un coffret, CD, plus DVD pour La Damnation de Faust de Berlioz, dirigé par John Nelson. Et puis un coup de cœur de Charles Ardenne pour Tosca de Puccini à l'Opéra de Rouen.